Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Et les vraies voix sont en mode Elvis Presley, puisque le King, s'il ne nous avait pas quittés le 16 août 1977, fêterait ses 86 ans aujourd'hui. Et les vraies voix ont toutes quelque chose en commun avec une chanson d'Elvis Presley. Philippe Bilger a, avec sa grande banane, quelque chose d'Elvis, c'est comme c'est un grand romantique. On l'imagine bien pour sa première rencontre avec Pascal lui demander « Êtes-vous seul ce soir ?» En anglais, ça se dit « Are you lonesome tonight ?»
Are you lonesome tonight ? Do you miss me tonight ? Are you sorry we drifted ?
Ça vous va, Philippe Bilger ?
Ah, mais c'est beau. Mais puis-je révéler quelque chose ? Une anecdote qui aurait dû rester secrète.
Ah bah, si vous c'est avec ignorez... Pascal, ça dépend.
Non,
ça, soit
non,
c'est
non.
maintenant, soit c'est avec vous, Brigitte Lahaie, selon ce que vous allez dire.
Vous non, c'est plutôt Pascal, mais en l'occurrence, c'est pas Pascal. Je voulais révéler à quel point, avant d'entrer en scène, hier, pour les vraies voix, j'ai eu droit à quelque chose d'extraordinaire, un concert de Philippe David, qui m'a chanté une dizaine de chansons d'Elvis Presley. Et il avait la voix fausse, mais les paroles par cœur.
Allez,
comme dirait le colonel.
Le colonel par cœur, oui. Si Priscilla, la femme d'Elvis, était brune, Caroline Pilastre est aussi belle que Priscilla, mais en blonde.
Oh,
et comme elle défend ses idées bec et ongles, on peut dire qu'elle est têtue. Une femme têtue en anglais, ça se dit hard-headed woman.
Well, a hard-headed woman, a soft-hearted man. Been the cause of trouble ever since the world began. Oh yeah, oh yeah, and the sense of what we get.
Ça va, Caroline, c'est plus rythmé que Philippe Bilger. Hein.
Ah oui, on a envie de danser là tout de suite, un petit rock, mesdames et messieurs, mais on ne peut pas à cause du Covid.
Malheureusement, ah oui, ça c'est vrai, pour les slow, alors là encore moins, m'en parlez pas.
Mais Caroline comme... s'est déchaînée, super.
Comme Elvis Presley, Philippe Deveul a des rouflaquettes, là il les a un peu coupées oui. quand même, et en tant qu'avocat, il veut changer les malheurs du monde, il est donc un peu rêveur. La chanson « If I can dream », « Si je peux rêver », lui va donc particulièrement bien.
If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why, oh why can't my dream come true.
Ça vous va, Elvis ?
Ça me va, Elvis.
C'était l'année où on s'est connus d'ailleurs. Il est mort juste avant qu'on rentre
oui,
en sixième.
Oui, c'est vrai, j'avais appris ça en
un
vacances.
Mois avant,
et je savais
aussi.
Pas qui était Elvis quand il
ah,
est
oui.
mort. Je l'ai découvert après.
Ah oui.
Et franchement, c'est...
Ah, je me rappelle de ses obsèques. On était en vacances par rapport,
oui.
celle de Diego Maradona.
Oui,
était
oui.
dans la plus stricte intimité. C'était absolument hallucinant. C'était à Memphis.
Et en fin de compte, c'est un géant.
Ah oui.
C'est un géant. C'était,
ouais.
Je crois, le plus grand chanteur américain de l'époque. Après, ou en égalité avec Frank Sinatra, mais sur
oui.
un autre
sur
registre.
Sur un autre registre. Voilà. Absolument, absolument.
Et c'est celui, pardon, qui vend encore le plus de disques actuellement. Je crois qu'il est au coude à coude avec Michael Jackson. Mais tant d'années après,
oui.
hein, il est intemporel.
Il est mort, ça fera 44 ans le 16 août. Enfin, Jean-Marie Bordry, entre Jean-Marie Bordry et les réseaux sociaux, c'est un amour brûlant. En anglais, ça se dit « burning love ». Ah, 1972, ça fait du bien quand même du Elvis pour commencer, non ?
Ah oui, c'est bien.
Ça fait
ah,
du bien. Et on a évidemment Jamel à la réalisation, Zach au standard et Aurore au web. Allez, notre débat du jour. À 17h30, pénurie d'électricité. Oui, RTE nous a demandé de baisser notre conso d'énergie aujourd'hui. Faut-il arrêter de réduire la part du nucléaire ? À 17h42, on en parle beaucoup encore, séparatisme, l'école continue-t-elle de reculer ? Il y a eu un sondage qui est sorti avant-hier pour Charlie Hebdo qui dit que accrochez-vous bien, 9% des enseignants ne soutiennent pas Samuel Paty, 16% ne se prononcent pas, ça fait 25%, et que dans le même temps, 49% se sont déjà censurés sur des sujets de religion et de laïcité. Enfin, à 18h30, le grand débat.
Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement, et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui.
Et oui, il y a 25 ans aujourd'hui, un quart de siècle, disparaissait François Mitterrand. C'était le 8 janvier 1996. François Mitterrand a-t-il été un grand président ? Ce sera notre grand débat à partir de 18h30. Et on aura une des voix de Sud Radio qui a très très bien connu personnellement François Mitterrand. Il a même dîné beaucoup de fois avec lui. C'est un certain André Bercoff que vous avez le plaisir de retrouver tous les jours de midi à 14h. Ça va les VV ?
Très bien.
En pleine forme.
Des beaux sujets en perspective. Oh, comme d'habitude.
Puis, on a bien commencé l'émission en musique.
Oui, mais il faut, vous savez, sans musique, la vie serait une erreur, disait Nietzsche. Enfin, Nietzsche, je ne sais plus comment on prononce.
Tant de références, quelle culture, monsieur David.
Vous êtes prêts pour un tour de table de l'actualité ? Eh bien, c'est parti.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ?
Je vais vous raconter une histoire pas banale.
Et vous me racontez pas votre petite journée ?
On a assez perdu de temps comme ça.
Le tour de table
de l'actualité.
Et c'est avec vous qu'on commence, Caroline Pilastre. Vous allez nous parler de l'ascension de Donald Trump sur Facebook et Twitter, c'est-à-dire les deux principaux réseaux sociaux.
Exactement. Ce soir, Philippe, je voulais revenir sur la censure de Jack Dorsey, qui détient Twitter, et évidemment Mark Zuckerberg, qui détient entre autres Facebook, également Instagram et WhatsApp. Ces GAFA dominent le monde. Mais là où moi ça me pose un problème, qu'on soit pour ou contre Donald Trump, le fait de décider de le bannir sous prétexte qu'il créerait plus d'émeutes. On ne va pas revenir sur ce qu'il s'est passé au Capitole, qui est pour moi scandaleux, d'une grande irresponsabilité. Malgré tout, là où il faut se poser des questions individuellement, c'est que ces GAFA ne sont contrôlés par personne, puisque ce sont des grands censeurs. C'est eux qui vont décider de ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire. Ils vont mettre en exergue la modération par moment, mais quand ça les arrange, parce que régulièrement ils vous disent, oui, on ne peut pas tout modérer parce que ça coûte cher et parce qu'ils y perdraient en publicité. Sauf que quand on laisse passer des propos racistes, homophobes, antisémites, comme on a pu encore le voir récemment avec la Miss France qui a été insultée, mais même son père devait retourner dans les camps, le travail n'avait pas été fini par Hitler. Pardonnez-moi, ça passe. Autour de cette table, on est nombreux à avoir été également menacé de mort. Donc moi, là où ça me pose un problème, c'est que Mark Zuckerberg décide de ce qu'on doit dire ou de ne pas dire en fonction de lui-même. Et n'oublions pas que Mark Zuckerberg est un démocrate convaincu. Il a le droit d'avoir la sensibilité qu'il veut. Mais à partir du moment où régulièrement il fait des dons aux démocrates, il ne peut pas être neutre. Et de cette manière, il se venge aussi de Trump, qui déteste les médias et les réseaux sociaux, qui a su également bien s'en servir depuis le départ de sa présidence. Mais je trouve que c'est quand même très dangereux pour nos démocraties, parce qu'ils sont même plus influents que les politiques maintenant.
Philippe Bilger, est-ce que c'est pas inquiétant, oui. Tiens, après tout, comme le disait Caroline Pilastre à très juste titre, les GAFA font ce qu'ils veulent, et s'ils boycottaient des candidats français dans un an pour la prochaine présidentielle ?
Si vous le permettez, Philippe, je préférerais rester sur le terrain de Caroline. Il y a quelque chose de plus qui peut venir parfaire son argumentation, c'est que je crois profondément que cette manière de censurer Donald Trump lui donne une forme d'aura délétère. Je n'ai jamais cru à la censure pour éradiquer le mensonge ou les absurdités. Le seul moyen de les faire disparaître, c'est de donner le droit de les contredire. Et censurer leur donne au contraire une sorte d'aura délétère qui est très dangereuse. Et pardon, mon cher Philippe, vous avez posé une question infiniment pertinente. Voyez, vous êtes tellement dans ma tête que je dis permanente.
Mais je suis en permanence pertinent, donc c'est normal.
Voilà, et donc je ne crois pas à ce risque, Philippe, pour la France. Mais Philippe, j'ai peut-être tort.
Philippe Deveul.
Concernant les GAFA, évidemment, c'est en fin de compte un nouveau pouvoir. Il y avait le pouvoir des médias, mais en fin de compte, elles ont surpassé quelque part les médias. Puisque là, elles sanctionnent directement. Les médias peuvent avancer des fake news, avancer des informations tronquées ou boycottées. Mais là, on sanctionne directement la personne qui fait partie de votre réseau. Donald Trump fait partie du réseau de Twitter, fait partie de Facebook. Et là, il y a une interférence.
Comme 95% des personnages publics.
Exactement.
Il n'y a que Angela Merkel, je crois, dans les grands chefs d'État, qui n'est pas de compte Twitter.
Et là, il y a une immixtion directe de ces sociétés qui, en fin de compte, elles sont mues par l'argent. Faut pas oublier que ces GAFA sont multimillionnaires, voire milliardaires. Milliardaire. Donc, c'est inquiétant. Alors, c'est pas inquiétant si, par exemple, ils boycottent quelqu'un que vous n'aimez pas. Bon, peut-être, mais au niveau...
bien.
Voilà, mais je pense que c'est un danger par rapport au principe du contradictoire ou de la démocratie telle qu'on l'a étudiée ou telle qu'on le dessine. Donc oui, évidemment, c'est choquant et c'est injuste.
Caroline Pilastre, vous imagineriez, vous, par exemple, que Twitter ou Facebook bannissent un ou une candidate à la prochaine présidentielle française, alors que c'est une entreprise américaine qui n'a donc pas à s'immiscer dans une élection en France, par exemple. Mais je parle de la
possible.
France, vous pourriez dire
oui,
la même chose
sûr.
En Allemagne, au Brésil, au Royaume-Uni, n'importe où, en Italie, en Espagne.
Mais ils ont un tel pouvoir
vous
que ce serait possible.
Philippe.
Ah ben non, mais c'est une question qui se pose.
Mais vous savez qu'on est 2 milliards quand même sur les réseaux sociaux. Hein.
Oui.
Vous vous rendez compte
vous
au quoi du poids qu'ils ont.
Parce qu'en fin de compte, excusez-moi
oui, bien
Caroline,
sûr, bien sûr.
En fin de compte, ces GAFA, c'est le règne du mondialisme.
Mais complètement.
Du mondialisme de la pensée. C'est, en fin de compte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, défendait un esprit américain. Alors, il y en a qui le critiquent, évidemment, d'autres sur la forme, peut-être, mais sur le fond, il a fait quand même un bon boulot pour les Américains. Il a renoué avec la croissance, avec l'emploi, quasiment le plein emploi, des salaires qui ont augmenté, même chez les personnes qui étaient colorées, alors que ce n'était pas fait avec Obama. Il n'y a pas eu de guerre. Et il n'est pas rentré dans des guerres. Alors bon, il y a des mauvaises langues qui disent comme ils n'ont pas pu faire de guerre, ils ont essayé de renverser le pouvoir aux États-Unis lors de cette cérémonie qui s'est mal passée. Mais quelque part, c'est la victoire du mondialisme.
Complètement. C'est ça, du capitalisme, du libéralisme. Mais moi, ce qui me dérange vraiment, et là où je suis très angoissée, même si on doit peser nos mots, et on ne parle une fois de plus pas de délit. Quand vous êtes dans le délit, c'est normal d'être bloqué et que la justice s'en mêle. C'est que ces gens sont aussi reçus par les plus grands de ce monde. Mark Zuckerberg a été reçu comme un président à part entière par l'Élysée, il y a peu, souvenez-vous. Donc c'est ça quand même qui est dangereux. Moi, je pense que quand vous sortez de leur bien-pensance, vous risquez d'être bloqué, une fois de plus. Et c'est dangereux pour nous tous en termes de démocratie, parce que moi, j'aimerais qu'il y ait une équivalence telle le CSA pour ces GAFA. Parce que vous vous rendez compte, quand même décider de boycotter un président, quel qu'il soit, bannir un président, pas le censurer,
mais
je trouve ça très grave.
On est bien d'accord. Pour conclure ce débat, je tiens à dire que malheureusement, a priori, il y avait encore quelques jours, il y avait des images de la décapitation de Samuel Paty, mais par contre, vous mettez un bout du tableau de Gustave Courbet, l'origine du monde, là vous êtes banni 30 jours.
Ou le sein de Michael Jackson sur Instagram,
Janet Jackson.
C'était moi, j'ai... C'est pas la plus révélateur. Voilà, c'est ça
c'était
qui est complètement incroyable.
C'est complètement fou. Fou. Livrez-vous à 17h16 avec Caroline Pilastre, Philippe Deveul, Philippe Bilger. On se retrouve dans quelques instants.
Mais voilà, il suffit pas de vouloir.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Deveul, avec Philippe Bilger et avec Caroline Pilastre. On continue le tour de table de l'actualité. Avec Philippe Deveul, vous voulez nous parler de la prise de parole d'Emmanuel Macron lors de l'invasion du Capitole ? On écoute ceci.
I just wanted to express our friendship and our faith in the United States. What happened today in Washington DC is not America. Definitely. We believe in the strength of our democracies. We believe in the strength of American democracy.
On croit en la force de la démocratie américaine. Alors, in Philippe Deveul, we trust. Donc, pourquoi c'est votre tour de table de l'actualité?
I don't think that our president, Emmanuel Macron, knows America well.
Yes, you can.
Yes, you can.
Non, je pense que c'est une erreur politique, mais vraiment grossière. Il est insomniaque, cet homme-là, puisqu'il va prendre la parole à 3h du matin, alors que bon, il y a eu un petit David Croquette qui a fait des galipettes là dans le bureau, dans les hémicycles du Capitole.
Enfin, c'était une invasion
du public.
Ce qui est dramatique, c'est concernant Ashley Babbitt, qui est une vétérante de l'US Air Force, qui a fait plusieurs opérations militaires, et qui est un héros, une femme héros de l'armée américaine, qui a trouvé la mort. Elle essayait de passer, on l'a tiré dessus.
C'est une activiste aussi, hein, faut que tu le précises, Philippe.
C'est une mais c'est quand même un être humain.
Bien sûr.
Elle n'était pas arrivée. Elle n'est pas arrivée avec une arme. Non, ils ont essayé de forcer. Parce qu'il faut comprendre la colère des gens.
Oui, mais c'est indéfendable de forcer le Congrès.
Attendez un petit peu. C'est comme les Gilets jaunes qui s'en sont pris au symbole de l'Arc de Triomphe. Mais c'est fini, on a remis du plat, c'est réglé. Je veux dire. Il faut comprendre la colère des gens. La colère du peuple, elle est parfois légitime. On n'arrête pas de nous parler des principes républicains. Mais il faut rappeler que ces principes républicains ont été faits par la violence. Quand on est allé, les révolutionnaires sont allés le 14 juillet 1789 à la Bastille, ils ont décapité le commandant militaire de la Bastille. Donc, de Launay, hein, c'était le gouverneur militaire de la Bastille. Donc, il faut savoir prendre du recul et arrêter de rentrer dans une sorte de lamentation, dire « Oh, mais c'est horrible, c'est affreux ». Non, moi, je pense aux victimes. Et je pense que ce qu'a fait le président Macron avec trois drapeaux, il manquait des décalcomanies ou peut-être une publicité GAFA derrière, ça aurait été peut-être encore plus sérieux. Hein. C'est-à-dire, en fin de compte... Il fait un appel du pied au pape du mondialisme qui est Joe Biden, hein, qui va prendre ses fonctions le 20 janvier, et que c'est une faute de goût. Et de dire ce n'est pas l'Amérique, c'est faux. L'Amérique a toujours été un pays violent. Il faut demander à Sitting Bull, hein, déjà, comment ça s'est passé. Et puis, il faut savoir comment ça s'est passé, la guerre de sécession de 1861
qui a fait plus de morts que
toutes les guerres réunies.
Que Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et guerre du Vietnam pour les
USA. Et même que
la
guerre d'indépendance américaine. Donc, Il faut comprendre que c'est l'activité, c'est la vie de ces pays-là. Alors, sur le symbole, que vous soyez choqué, je le comprends, je le conçois. Mais il faut arrêter ce drame. Est-ce que le président Macron a pris la parole quand, par exemple, les Azéris, avec la Turquie et des islamistes, sont allés massacrer 5000 Arméniens au Haut-Karabakh ? Ben non.
Alors bon, justement, voilà. Philippe Bilger, est-ce que quelque part, c'est pas un peu de l'ingérence dans la politique d'un État étranger ? Parce que si
c'est
jamais...
Comme si vous...
Oui, allez-y.
Allez-y, pardon.
Non, mais allez-y, Philippe, allez-y.
J'avais beaucoup aimé le début de l'intervention de Philippe de Veul, et puis là, je suis plutôt en légère opposition. Mais, et plutôt dans votre registre, mon cher Philippe David. C'est-à-dire que moi, je considère que l'intervention du président de la République dans ce registre mélodramatique à 3h du matin est très offensant pour les États-Unis. Je veux dire, voilà, les Français ont toujours voulu décider à la place des pays, et notamment des États-Unis, de leurs affaires. Ils ont voulu choisir les présidents et ils se sont en général trompés. Là, nous avons un président français qui, devant un drapeau américain, vient se mêler très directement des affaires américaines comme s'il était co-responsable d'elles. Je trouve que c'est très insultant, offensant pour un grand pays, et on a beau tourner ça dans tous les sens et faire du mélodrame, je trouve qu'il n'aurait pas dû parler comme ça.
Caroline Pilastre, qu'est-ce qu'on dirait si jamais un président américain disait entre les deux tours de la prochaine présidentielle, faut voter pour un tel ou un tel ?
À mon avis, pas grand-chose, parce qu'ils s'en ficheraient, hein. Et vous le savez très bien. C'est pas sur ce terrain qu'ils diraient, ça serait sur le terrain géopolitique ou économique. Mais honnêtement, on n'est pas grand-chose pour eux. Là où je vous rejoins, messieurs, c'est que bien sûr que c'est de l'ingérence. En quoi M. Macron, à 3h du matin, déjà, est-ce que c'était aussi pressé que ça ? Il ne pouvait pas attendre 8h du matin. Je pense aussi à son staff, les pauvres, hein, parce qu'en pleine nuit, faire un communiqué de presse comme ça...
Garder les caméramans, etc.
Quand même, hein, mais c'est de la com' pour moi. Alors, il peut être très proche des Américains, des États-Unis, parce qu'on sait très bien qu'à la base, c'est aussi le président de la Startup Nation. Donc, évidemment qu'il y a un lien direct avec ça. Mais est-ce qu'on avait besoin de l'entendre avec tout le décorum des drapeaux derrière ? Moi, j'ai trouvé ça totalement absurde. Il aurait pu patienter jusqu'à 8h du matin, donner son opinion, mais un peu raison gardée. Il y a un moment donné, on ne l'entend pas trop sur la question des Gilets jaunes, enfin précédemment, sur la question du séparatisme, sauf quand il doit parler à date fixe. Mais c'est vrai qu'il ne prend pas la parole pour d'autres conflits mondiaux. Donc là, c'est facile pour lui de prendre la parole et aussi de s'imposer auprès de Biden et de toute sa team. Parce qu'évidemment, il y a un lien plus direct entre eux qu'avec Trump, où c'était un rapport de force. Donc j'ai trouvé ça ridicule.
Oui, Philippe Bilger.
Philippe, il faut bien voir aussi que cette anecdote d'une intervention à 3h du matin lui permet de renouer médiocrement avec l'espèce de bourreau de travail qu'on avait vanté au début de son quinquennat. On nous a bassiné durant des mois et des mois en disant que cette équipe ne dormait jamais et qu'il avait fallu l'intervention de Brigitte Macron pour qu'un jour ils aillent se coucher à une heure raisonnable, c'est-à-dire 3h du matin. Il y a beaucoup de frimes là-dedans, clairement.
Oui, et puis une faute de goût. Une faute de goût, c'est trois. Bon, il y avait le drapeau français, européen et américain. Il manquait les guirlandes lumineuses.
Merci beaucoup. Dans quelques instants, notre premier débat, oui. Pénurie d'électricité, faut-il arrêter de réduire la part du nucléaire? Parce qu'aujourd'hui, RTE nous demande de faire attention à notre consommation d'électricité. Et bien pour le moment, vous êtes 54% à dire oui, il faut continuer le nucléaire. Donc en clair, il faut le relancer. Vous voulez réagir? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
C'est pas physique, c'est électrique. C'est pas physique.
Ah oui, comme chantait Robert Charlebois il y a une trentaine d'années. Je prendrai pas l'accent québécois là, c'est trop compliqué. C'est pas physique, c'est électrique. Puisque RTE, le gestionnaire du réseau électrique, a incité hier soir les Français à réduire leur consommation d'électricité aujourd'hui du fait de la baisse des températures qui sont entre moins 4 et moins 5 degrés sous les normales de saison. Vous avez entendu d'ailleurs Rémi André. Surprenant dans le pays qui avait le premier programme nucléaire du monde et qui vient de fermer Fessenheim, d'où notre premier débat. Pénurie d'électricité, faut-il arrêter de réduire la part du nucléaire? Et pour le moment, vous êtes 54% à dire oui, donc vous voulez continuer le nucléaire. Vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. Et c'est l'heure du duel.
C'est l'heure du duel.
Ah, et on va prendre la direction d'une ville que j'adore, magnifique, Arcachon. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous vos invités, et Philippe Bilger et tout le monde. Et je vous écoute toujours avec attention.
Et meilleurs voeux à vous.
Bonsoir.
On irait bien vous voir avec plaisir à Arcachon, même si pour se baigner en ce moment,
c'est un peu frais. J'étais tout à l'heure sur le bord, il y a le givre à l'ombre qui est resté toute la journée.
Mais enfin, on va rester au chaud. Alors, on vous écoute voilà. Et votre duel, c'est face à Philippe Deveul.
Écoutez, moi, je voudrais être tout simplement pragmatique. Hein. Je pense qu'il faut être raisonnable. Bon, on a une consommation électrique et on veut tout faire tout électrique, les voitures électriques, enfin tout électrique, les chauffages maintenant, tout le monde oriente là-dedans. Et comment voulez-vous faire sans une production d'électricité avec une continuité d'approvisionnement quand même sérieuse, hein. On ne fait pas du 220 comme ça. Donc je ne vois pas comment on pourrait se passer à l'heure actuelle des centrales nucléaires, bon, qui est une variante des centrales thermiques, hein. On fait toujours chauffer de l'eau et on fait tourner des turbines. Mais
absolument.
Ça permet d'avoir un approvisionnement régulé et constant qui peut répondre à des petits coups de surconsommation et tout ça. Là, regardez, on a géré le programme nucléaire, là, comme on gère les masques et les vaccins. On a laissé des centrales en fin de vie et maintenant on s'aperçoit qu'on n'a plus de courant. Alors voilà, il fait moins 4, ce qui n'est pas bien méchant, et on est à la limite du délestage. Moi, je pense qu'il faut raison garder et développer le nucléaire. Il faut déjà remettre en circuit, enfin tout du moins en production, ce qui pourrait être mis en production. Il faut travailler sur la sécurité du nucléaire, ça bien sûr, je suis sûr, traitement des déchets, mais on ne peut pas se passer du nucléaire. Il faut être sérieux. On ne peut pas dire on va faire du tout électrique et des machins. Écoutez, excusez-moi, c'est pas les ventilateurs là qu'on appelle des éoliennes ou les piles sur les toits qui vont. Non, mais j'ai pas de parti pris. Mais il faut être sérieux.
Ah,
on met des centrales thermiques. Mais il faut une régulation de l'approvisionnement.
Frédéric,
ça ne peut se faire qu'avec voilà.
Restez avec nous. On donne la parole à Philippe Deveul.
Bah écoutez, je suis d'accord pour un débat. Je peux aller que dans ce sens. On a choisi le nucléaire. Ça fait déjà.
au moins près de 50 ans.
Cinquantaine d'années.
Bon, c'est sous Pompidou, sous Giscard.
Pompidou, Giscard. Quand on s'est engagé, c'est pas un petit engagement, c'est un engagement sur une centaine d'années, voire plus. Et maintenant, de se désengager du nucléaire, bon, on vous dit, oui, c'est vrai, moi, ma crainte, c'est qu'il y ait un jour un accident, comme à Tchernobyl, et comme on a vu ce que c'est le Covid, je vous dis pas ce que ce serait avec un accident nucléaire avec une usine, enfin, une centrale. Ce serait catastrophique. Et surtout si c'est la même équipe. Bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut travailler sur la sécurité du nucléaire, et je pense que ça reste une énergie pérenne et propre, avec le danger si on laisse dépérir cette énergie. Et ce tout électrique, ce tout éolien, ce tout solaire, pourquoi pas, mais... Moi, personnellement, quand je prends ma voiture et que je vois sur nos paysages ces éoliennes, on dirait des monstres un peu, ça me fait penser à Don Quichotte, là, qui se battait dans mes... Et en plus, ça coûte de l'argent. En fin de compte, les propriétaires terriens qui accueillent ces éoliennes qui touchent de l'argent là-dedans. Mais d'un autre côté, ça ne produit pas assez parce qu'il en faudrait beaucoup
plus. Ah bah quand il n'y a pas de vent, déjà...
Exactement. Donc, à mon avis, on est dans une mode. Il faut savoir faire... la part des choses, garder l'essentiel et travailler sur les points faibles. Les points faibles, c'est-à-dire le recyclage ou le stockage des déchets nucléaires, ça c'est certain, de le faire d'une manière beaucoup plus consciencieuse, beaucoup plus structurée. Mais je crois que s'il y a pénurie, c'est parce que justement, on veut sortir du tout nucléaire.
Justement, Caroline Pilastre, ça fait quand même un drôle d'effet dans le pays qui a eu le premier programme nucléaire du monde de dire bah, aujourd'hui, consommez pas trop d'électricité.
Non mais là où moi je vous rejoins tous, c'est qu'il faut trouver une solution, une transition écologique qui soit pérenne. On ne va pas se chauffer à la bougie, pardonnez-moi. Donc à un moment donné, moi j'aimerais juste qu'on me réponde à cette question, parce que c'est très bien de vouloir autre chose que le nucléaire, sachant que Fessenheim, puisqu'on en revient aussi à elle...
La fermeture de Fessenheim.
Exactement, a mis beaucoup de gens... sur le carreau aussi, parce que vous aviez beaucoup de personnes qui travaillaient dans cette usine.
Alors ceux d'EDF n'ont pas été licenciés, mais par contre c'était les sous-traitants, les gens autour, oui. Là oui, eux oui, font oui, partie oui. Des dommages collatéraux, comme on dit.
Il faut vraiment qu'on axe sur la maintenance, c'est ça qui est quand même important, parce que les travaux par exemple pour Fessenheim ont été estimés entre 20 et 200 millions d'euros. Donc il y a un moment donné, moi je veux bien qu'on vous parle des usines à charbon, et c'est ce qui se passe aussi en France, et on va en acheter aussi aux Allemands,
en Allemagne. Hein,
en Allemagne, voilà.
Qui est produite au charbon à la lignite, c'est les pires modes de production pour le CO2.
Exactement, et qui sont loin d'être vertueux. Donc, qu'on propose des choses qui sont concrètes et pragmatiques, plutôt qu'être toujours dans vouloir mieux ou autre chose. Mais moi, je veux surtout qu'on me réponde à cette question. Qu'est-ce qu'on fait en attendant pour ne plus avoir du nucléaire ?
Philippe Bilger. Et après, on va au 0826-300-300.
Philippe, je vous ai dit in petto que je n'étais pas un spécialiste du nucléaire, mais je pense qu'il y a très peu de Français qui seraient prêts à dire qu'en lui-même, le nucléaire n'est pas nécessaire. Mais en revanche, je rejoins ce qu'a dit Philippe. En tant que profane, je ne m'inquiète sur le nucléaire qu'à partir des dangers que certains opposants évoquent et qui ne me paraissent pas forcément farfelus, notamment la sécurité de certaines centrales et les déchets. Alors je ne sais pas ce que valent ces oppositions, je ne crois pas qu'elles soient de nature à battre en brèche l'importance du nucléaire, mais peut-être faut-il en tenir compte.
Eh bien écoutez, direction le 0826-300-300, on était à Arcachon, une très belle ville, on reste dans le sud, mais presque à l'autre bout, direction Arles. Bonsoir Philippe.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et...
bon année, bonsoir.
Voilà.
Hein. Et on veut.
Très bonne année. Hein.
Commençons par le commencement. Voilà. C'est vrai que 2021 va être pire que 2020. L'avenir nous le dira. Comme disait Pierre Dac, ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est les prévisions.
Ouais. Voilà. On vous écoute sur le nucléaire. Est-ce que pour vous, il faut relancer le nucléaire ou pas?
Moi, je suis partagé. Et je vais vous dire pourquoi. Mon métier, c'est de faire de la prospective, et j'ai eu le plaisir de discuter très longtemps avec un monsieur qui a été président d'EDF, Pierre Delaporte. Ça vous dit sans dire rien, parce que c'est il y a quelques dizaines d'années. Et je lui posais la question, le nucléaire, quel est l'avenir nucléaire et est-il dangereux? Alors il me demandait si la caméra tournait, parce que vraisemblablement il voulait me dire quelque chose qu'on pouvait pas trop diffuser. Il me dit, écoutez mon cher ami, naître, c'est prendre le risque de mourir. Oui, le nucléaire est dangereux. Il n'y a pas de société industrielle sans risque. quel qu'il soit. Ensuite, ça dépend de nous. Ça dépend des hommes, ça dépend de l'entretien, ça dépend de la technologie, ça dépend des guerres commerciales qu'il y a eu, parce qu'il y en a, Dieu sait s'il y en a eu. Et donc, l'avantage du nucléaire, c'est qu'il nous donnait, on va dire, une certaine avance et...
Une certaine indépendance.
Voilà, une indépendance.
Parce que la guerre dont vous faites, dont il vous faisait part, c'était la guerre du pétrole à l'époque. Les chefs pétroliers de 73-79.
Exactement. Bon, ça, c'était la phase 1. Puis est arrivée la phase 2, avec les incidents que vous connaissez, on va revenir dessus, Tchernobyl, Fukushima. Le coût du nucléaire, on voit qu'il a explosé, avec l'EPR, pour une raison toute simple, c'est que nous avons une perte de maîtrise. Nous avons laissé, presque sciemment, notre industrie à l'abandon. Elle a été mal gérée. Et c'est pour ça que les énergies renouvelables sont utiles aussi, mais ne sont pas la solution unique. Il n'y a pas de solution unique. La solution, c'est des mix.
Alors justement, Philippe, on va faire réagir les vraies voix. On vous remercie beaucoup. Philippe Deveul voulait réagir. C'est vrai qu'on a perdu notamment avec Alstom, qui est devenu passé à General Electric, à une catastrophe.
Oui, on sait par qui. Hein.
Oui.
Bon, le problème, il date déjà depuis longtemps. Et d'ailleurs, on reparlera sur le passé, puisqu'on va commémorer la disparition de François Mitterrand. Il y a eu un laisser-aller général en France. Et c'était un pays industriel puissant. Et on n'a plus d'industrie aujourd'hui. Et c'est un véritable problème. Et il est clair que toutes ces centrales nucléaires méritent toute notre attention et toute notre vigilance. Parce que c'était un joyau pour la France, pour la technologie française. Et que on laisse toujours un peu des... pourrir les choses et que la mondialisation a aussi fait son effet, c'est-à-dire que par la mondialisation, on a baissé sa garde, on n'a pas été innovant, on a délocalisé, on a vendu nos joyaux. Enfin, et on arrive aujourd'hui à des constats de manque, de pénurie, d'échec. Bon, c'est gouverner, me semble-t-il, c'est prévoir. Et malheureusement, on ne prévoit plus. On ne prévoit que les élections, mais pas vraiment le fond du problème de la France. Le fond du problème industriel, technologique.
Verdict sur Twitter, les vraies voix, le premier débat, pénurie d'électricité, faut-il arrêter de réduire la part du nucléaire? Ça a beaucoup bougé, mais vous êtes toujours 54% à dire oui. Donc on peut dire que vous êtes branché, mais en version nucléaire. Dans quelques instants, notre second débat. Séparatisme, l'école continue-t-elle de reculer? Oui, vraie question. Eh bien pour le moment, vous êtes... 94% à dire oui sur Twitter, comme Philippe, comme Frédéric, vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Philippe Deveul. Selon un sondage IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Charlie Hebdo, publié avant-hier, 49% des enseignants disent s'être déjà auto-censurés dans leur enseignement autour des questions religieuses pour éviter de possibles incidents en classe. Une hausse de 13 points par rapport à 2018. Dans le même sondage, la décision de Samuel Paty de dispenser un cours sur la liberté d'expression, en s'appuyant sur des caricatures de presse, trois quarts des professeurs interrogés, 75%, soutiennent l'attitude de Samuel Paty, mais 9% pensent qu'il a eu tort et 16% préfèrent ne pas se prononcer. Ça s'appelle botter en touche. Séparatisme, l'école continue-t-elle de reculer? Et pour le moment, vous êtes 94% à dire oui sur Twitter. Philippe Bilger, est-ce que ce sondage, il n'est pas un peu terrifiant quand même?
Pardon, je vais utiliser, mon cher Philippe, peut-être mes facultés de centrisme. Là, je considère que la première réponse, en dépit des apparences, est tout de même relativement réconfortante. Je veux dire, il y a une forte majorité de professeurs qui approuvent ce qu'a fait cette malheureuse victime. Et bien sûr, il y a une minorité qui n'est pas infime, mais qui n'est pas considérable. En revanche, je voulais dire que je comprends que j'ai beaucoup d'indulgence pour les professeurs qui s'auto-censurent dans ces domaines-là parce qu'ils ont légitimement peur à partir des tragédies qui, malheureusement, endeuillent notre pays. pardon d'être un tout petit peu long, je pense à des censures que nous exerçons sur nous-mêmes. Moi-même, je pense à une époque où, dans des domaines infiniment tranquilles, je réfléchissais avant de dire qu'il fallait l'équité démocratique à l'égard de Marine Le Pen, alors que jamais de ma vie je n'ai voté pour le Front National, mais j'en avais presque assez d'être traité de facho. Et donc, j'imagine à quel point ces professeurs ne doivent pas être méprisés, ils ne le sont pas d'ailleurs, lorsqu'ils parlent de l'autocensure qu'ils exercent, et je comprends leur démarche.
Caroline Pilastre, l'autocensure au pays de Voltaire et des Lumières, est-ce que c'est pas quelque chose de terrifiant en 2021 ?
C'est totalement terrifiant, et moi je comprends complètement ces profs. Clairement, ils n'ont pas envie de perdre leur tête, donc ils sont obligés de s'auto-censurer, d'autant plus que vous avez énormément de parents d'élèves qui, contrairement à il y a des générations, sont extrêmement intrusifs vis-à-vis du programme scolaire, remettent en question le colonialisme, on ne peut pas évoquer, par exemple, la Shoah.
Les croisades.
Il y a
l'éducation sexuelle en
aussi,
SVT, ça n'a rien à voir avec l'histoire.
Bien sûr, il y a un véritable tabou de la religion. Et puis, ce qui est très grave, c'est que ces professeurs sont rarement soutenus par leur hiérarchie et même certains de leurs collègues. Donc partons de ce principe. Je suis désolée, ils essayent de prendre le moindre risque possible à partir du moment où ils savent qu'ils craignent pour leur vie. Ils sont menacés. Donc attendez, cet entrisme communautaire est extrêmement dangereux. Et ça fait des années que ça existe. Malheureusement, le 16 octobre, avec la décapitation de ce pauvre professeur, M. Paty, on en a eu la preuve. Et tout le monde, enfin, tous les républicains que nous sommes, et ça n'est pas une question, une fois de plus, d'origine ou de religion, mais vous avez une minorité qui impose sa manière de concevoir la République et la laïcité. Et si on ne fait pas quelque chose réellement, et qu'on n'a pas cette volonté de prendre ce problème à bras-le-corps en évitant les éléments de langage courants à chaque fois qu'il y a des soucis de ce genre, on n'arrivera pas à s'en sortir, parce que le problème est beaucoup plus profond que ça. On remet en cause les fondements de notre République.
Philippe Deveul, est-ce que c'est pas terrifiant ce sondage ?
Bien sûr que c'est terrifiant, mais je suis pas étonné. C'est une logique qui avance, qui est sourde, et puis parfois avec des réactions épidermiques et tragiques, mais ça continuera. Mais bon, vous parlez de la République, c'est bien, mais moi je parle de la France. Mmh. C'est-à-dire qu'on a 1500 ans d'histoire, et puis de vivre quelque chose comme ça aujourd'hui chez nous, c'est insupportable. Mais on doit vivre avec. Et jusqu'où, comment, je ne sais pas, c'est une question que je me pose souvent, parce que c'est intolérable, cette intolérance. Et que les professeurs aient peur, c'est humain. C'est humain d'avoir peur. Mais
ah oui.
Qui a envie de se faire décapiter?
Évidemment.
Parce qu'on va dire un truc qui ne plaît pas, un pet de travers, un machin. C'est insupportable. Mais il faut que ça. Ce qui est encore hallucinant, c'est que ça se passe dans un pays où on a eu des philosophes, on a eu des théoriciens qui, justement, prenaient la liberté. On prenait l'indépendance de pensée, de raisonnement, et on revient à des temps obscurs. Bon, bah, c'est une réalité, on ne va pas le résoudre au micro ce soir. Malheureusement, oui, je crains le pire pour la suite.
Philippe Bilger, je vous redonne la parole, Philippe, oui. Bilger. Comme le disait Caroline Pilastre à juste titre, parce que le drame, c'est quand même pas que souvent, les enseignants sont abandonnés par la hiérarchie.
Par le rectorat.
Oui, ça n'est apparemment pas toujours vrai, enfin d'après la hiérarchie qui est parfois mise en cause, mais il est assez la règle dans les institutions que la hiérarchie considère que le scandale vient de celui qu'il dénonce, pas de celui qui l'a créé. Ça c'est bien connu, j'ai vécu ça dans le judiciaire. Mais je rejoins ce qu'a dit Philippe, il y a un problème, on a beau évidemment célébrer la valeur des abstractions et des principes de la liberté, lorsqu'on a à les pratiquer dans un climat difficile, douloureux, chaotique, risqué, menaçant, évidemment là, il faut plus que du courage, j'allais dire presque une sorte d'audace suicidaire, et je comprends ceux qui ne l'ont pas.
Mais vous diriez, tiens, je vais vous poser la question à tous les trois, vous diriez de l'inconscience ?
La conscience.
De dire, par exemple, j'écoutais ce matin le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Il y avait un ancien principal de collège qui avait écrit un livre qui disait, par exemple, la théorie de l'évolution, bah, c'était très compliqué à enseigner. Parce que moi, il dit, j'avais un élève, mais il y a longtemps, c'était pas il y a 6 mois, c'était il y a des années, qui m'a dit, mais de toute façon, la théorie de l'évolution, ça n'existe pas, parce que moi, l'imam m'a dit le contraire. Et est-ce que ça pose pas question ?
Bien sûr.
Caroline Pilastre.
C'est très grave ce qui est en train de se passer. On n'est pas là pour faire les défaitistes ou catastrophistes. Je veux dire, tout est lié malheureusement. À partir du moment où certains mettent la religion avant le fondement des lois républicaines, là est le problème. Et c'est au gouvernement, c'est à la majorité, quelle qu'elle soit, d'agir. On n'aurait jamais dû laisser passer. À partir du moment où il y a eu un écart, et ça fait des années qu'on entend les profs sur ce sujet, je ne me souviens plus du nom de ce proviseur, mais je l'ai eu dans une autre émission face à moi. Et il expliquait même qu'il a eu un jeune élève qui était israélien, qui est venu le voir avec sa maman, et il lui a dit, bah écoute, moi je te conseille, vraiment, comme c'était dans un quartier sensible, de ne pas venir dans mon établissement, parce que tu crains pour ta vie. Vous vous rendez compte, dire ça à un gamin et à une mère, dans un établissement public? Parce que quand vous êtes dans du privé, à la rigueur, les écoles catholiques gèrent... Non mais par exemple, par rapport à la sexualité, c'est inadmissible. Mais on peut entendre qu'il y a un encadrement, que certains parents ne veulent pas... être étalés auprès de leurs gosses en termes d'instruction. Mais là, on parle de laïcité. Donc si la religion prime, vous avez aussi des jeunes filles qui ne veulent pas aller à la piscine ou faire du sport, et elles donnent comme prétexte le chlore. Sauf que c'est faux, c'est parce qu'elles ne veulent pas se mettre en maillot et qu'elles sont soutenues par les familles. Donc ça vient de l'éducation en dehors de l'instruction. Parce qu'une fois de plus, les parents éduquent, l'État, l'école doit instruire.
Enseigner. Absolument. Verdict sur Twitter, séparatisme, l'école continue-t-elle de reculer? Vous êtes 94% à dire oui. Et si on jouait un petit peu?
Allez. Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Il arrive toujours là, avec ses trompettes et son miaulement. Bonjour Jean-Marie Bordier.
Non, c'est vous qui miaulez, moi je rugis, mon ami. Je suis le seul à jamais perdre à ce jeu, donc c'est normal que je rugisse.
Vous êtes le seul à ne jamais gagner non plus.
Mais non, mais c'est moi qui choisis qui gagne. C'est encore mieux, c'est plus flatteur, on n'est pas d'accord?
Quel dictateur, on a
arbitre, je préfère ça. N'est-ce pas Philippe Bilger, vous êtes d'accord?
Ah, il reconnaît que c'est lui qui nous manipule.
Tout à fait, j'adore ça. J'adore ça. Chers amis, je vous propose qu'on accueille tout de suite Eliane au 0826-300-300 depuis le Tarn. Bonsoir à vous, Eliane.
Bonsoir à vous et bonne année surtout.
Ben oui,
bonne année à vous, Eliane.
Meilleurs vœux, je vous ai gardé, et je vous ai réservé une petite question sur le Tarn d'ailleurs. Ça s'est passé pas loin de chez vous, c'est dans quelques instants. Mais auparavant, je vous rappelle les règles. Vous avez trois vraies voix avec vous, Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Philippe Deveul. Il faut en choisir une seule avec qui vous allez jouer contre les deux autres. Dites-moi.
Bah, Philippe Gelbert, je ne sais pas le nom, je ne sais pas bien.
Philippe Bilger.
Philippe
Deveul. Il y a trop de Philippe dans cette émission.
Vous avez le choix entre un avocat et un ancien magistrat.
Voilà. Ah, c'est bien alors.
Juge ou avocat, vous préférez quoi? Dites-moi.
Ah, juge.
Allez, Philippe Bilger. Bon, je rappelle les règles, je vais vous poser trois questions. Vous avez le droit de vous tromper, parfois je vous donne des indices, parfois j'en donne pas, ça dépend de mon humeur. Dans tous les cas, si vous vous trompez au début, ma chère Eliane, c'est pas grave, les vraies voix se battent pour avoir la bonne réponse. Et si jamais c'est Philippe Bilger qui l'a, vous avez le point quand même.
Enfin, se battent verbalement. Hein.
Bien sûr, c'est une joute.
Évidemment, on est pacifique.
C'est une joute oratoire, effectivement. Commençons par retourner pour une énième fois aux États-Unis, à Washington, au Capitole. C'est pas de chance, Eliane, pour l'un de ceux qui ont envahi le Capitole à Washington. Il vient de se faire licencier. Question, comment est-ce qu'il a été reconnu par son employeur? Réponse numéro 1, il était en Facebook Live, il passait son temps à hurler son propre nom et son propre prénom. Pas malin. Réponse numéro 2, il se baladait tranquillement dans le Capitole, envahi, tout en portant autour du cou le badge de son entreprise. Pas malin non plus. Réponse numéro 3, il brandissait une pancarte sur laquelle il reprochait délicatement à son patron d'être un démocrate. D'après vous?
La 3.
La 3, eh bien non, ça aurait pu, mais non.
Qui répond alors du coup maintenant? On a le droit de jouer?
C'est
la
le 2, plus rapide.
Ah,
c'est
la 2. La 2.
Bien bravo Philippe Bilger, vous avez été plus rapide, effectivement. Il portait...
Je connais Caroline, elle triche, donc je vais très vite.
Je rêve. Et
vous avez le point, Eliane.
C'est vrai, je confirme, elle triche.
Vous avez tort d'accuser votre coéquipier de tricher, mon cher Philippe Deveul, c'est pas mal. On continue, chers amis.
Très honnête.
Je vous avais promis, Eliane, vous avez un point grâce à Philippe Bilger. Même le Covid, sachez-le, ma chère Eliane, n'arrête pas l'équipe de foot de cambouner sur le sort. Les joueurs viennent de prendre l'avion pour une destination très lointaine parce qu'ils veulent y prendre la pause, se prendre en photo avec la Coupe du Tarn qu'ils ont remportée. D'après vous, où est-ce qu'ils s'apprêtent à exhiber leur trophée? Réponse numéro 1, c'est au pied de l'Annapurna, c'est au Népal. Réponse numéro 2, c'est au sommet du mont Fuji, c'est au Japon. Réponse numéro 3, c'est au sommet du Kilimandjaro en Tanzanie. Vos voisins, ils vont où d'après vous?
Kilimandjaro.
Bravo,
ah oui. Bravo.
Ils ont fait un demi-tour du monde, effectivement, déjà avec la Coupe du Tarn, qui sont très contents d'avoir gagné. Et là, ils se sont envolés aujourd'hui pour la Tanzanie. On essaiera sur Sud Radio de les appeler pour voir si on peut être en direct avec eux depuis les seules neiges éternelles du continent africain. Et puis, bon, nous sommes le 8 janvier, on termine, vous avez déjà gagné, Eliane. 8 janvier, ça aurait dû, il y a quelques années en tout cas, être l'anniversaire de la naissance d'un très grand chanteur. Je vais vous proposer d'écouter une chanson qui n'est pas la plus connue. Est-ce que vous savez qui est né un 8 janvier?
C'est qui est mort.
Non,
qui est né un 8 janvier? Est-ce que vous reconnaissez le chanteur?
David. David
Bowie.
Yes, David Bowie.
David.
J'allais dire Sting, sinon.
Eh ben, c'est pas grave, vous avez été sauvé par Philippe Bilger. Bravo à vous, Eliane.
On a gagné, Eliane.
Bravo. 3-0 en plus.
3-0, bravo.
Écoutez la joie enfantine dans la voix de Philippe
Bilger. Quand les jeux sont corrects, on gagne.
Oui, c'est sûr. Effectivement, quand vous avez de la chance aussi.
Quand il y en a qui trafiquent pas.
Bah écoutez.
Vous visez qui?
À Caroline.
Une femme et un homme.
Ah ouais. Et vous mouillez, monsieur Bilger, en ne donnant pas les noms.
Je rappelle les règles des rois de l'info, chers amis. Pour tricher, il faut être fort. Et quand on est fort, on ne triche pas. Voilà.
Exactement.
Eliane,
merci,
restez en ligne, ma chère Eliane. Vous allez donner votre adresse dans le Tarn avant de vous envoler, vous aussi, pour le Kilimandjaro, je vous le souhaite. Et puis, on va vous envoyer un mug Sud Radio. On vous embrasse très fort, Eliane.
Je vous remercie. À bientôt.
À bientôt.
Merci à bientôt. À 18h30, notre grand débat. François Mitterrand a-t-il été un grand président? Et vous êtes 87% à dire non sur Twitter. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Monsieur le Président. Caroline Pilastre, chroniqueuse sociétale spécialisée sur l'handicap. Madame la Présidente.
Merci, monsieur.
Philippe Deveux, l'avocat. On va vous appeler maître.
Merci.
Ça vous va bien. Merci. Et vous, on va vous...
Attention à ce que vous allez dire.
Et Jean-Marie Bordry, on vous appelle comment? Empereur, roi, majesté?
Je suis républicain.
Alors, monsieur le Président aussi. Bon, ça va, on a une présidente, deux présidents, un maître, c'est fabuleux. Le premier débat, l'autre grand débat, pardon, à 18h30, François Mitterrand a-t-il été un grand président? Vous êtes 87% à dire non et vous pouvez d'ores et déjà réagir au 0826-300-300. On vous l'a dit lors de la première heure, les vraies voix sont au mode Elvis Presley aujourd'hui puisque le King aurait eu 86 ans. Et on va se faire, tiens, un petit quiz musical, les amis, ça vous dit?
Avec plaisir.
Vous savez que Elvis Presley a repris 5 chansons françaises qu'il a adaptées en anglais. Et on va faire le test, on va vous les faire écouter en anglais. Et vous allez devoir trouver le titre original ou l'artiste original. Vous êtes prêt?
Allez.
Prêt, Philippe Bilger?
Je suis prêt à perdre.
C'est beau le réalisme. Allez, on écoute le premier extrait.
Claude François.
Ah bah oui,
bonne réponse.
Claude François.
Comme d'habitude.
Bravo.
Et je version originale.
Tu ne te réveilles pas.
1-0 pour Jean-Marie Bordry. Allez, on prend la suivante.
What now, my love?
Et maintenant,
bonne réponse, et Caroline Pilastre.
Ah non,
c'est faux.
Arrêtez
de tricher, s'il vous plaît, monsieur.
Ah non, il est trop galant, cet homme.
Ah non, elle a été plus rapide que vous. Alors là, ne soyez pas de mauvaise foi.
Franchement,
j'ai fait un écho. Et maintenant, allez, la troisième, c'est plus compliqué. Alors, c'est une chanson...
Non,
le titre est exactement le même en français, c'est un titre en espagnol. Padre, 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 le père en espagnol. Alors, je vais vous aider, c'était une grosse vedette en France qui était franco-espagnole, elle est morte il y a une quinzaine d'années.
Iglesias.
Non, une femme.
Ah. Une femme, une grosse vedette espagnole. Gloria Lasso.
Bonne réponse de Philippe Bilger.
C'est là où on voit l'écart de génération.
Et tout de suite, on écoute un troubadour.
Allez, quatrième extrait.
il faut se battre pour pouvoir reconnaître ses droits. I want to stay
around you. And so I beg. Vous voyez pas?
Non.
Non.
Bah, c'est un déchanteur, il a déjà repris une de ses chansons dans celle qu'on a citée.
Johnny Hallyday?
Non.
Non, pas du tout.
Non.
Claude François?
Non. Eh ben, je vous donne la réponse. C'est Gilbert Bécaud.
Comme l'argile. L'insecte fragile.
Je t'appartiens en version originale.
Ah bon, bah, écoutez.
Je la connais pas.
Allez, on prend la dernière.
Alors, pour la route.
Vous avez pas la réponse?
Pas Jenny?
Non. Eh ben, écoutez, c'est Claude François.
Entre ta mère et moi, ça ne va plus très bien.
C'est vrai.
Et depuis
parce que je t'aime, mon enfant, qui devient My Boy en anglais. Eh ben, écoutez, Philippe Deveul, vous êtes le seul à être resté à zéro. C'est donc un match nul entre Jean-Marie Bordry, Philippe Bilger et Caroline Pilastre. Et donc, ce sera à vous de payer un coup quand il n'y aura plus de Covid.
Avec plaisir.
À vos collègues. Ah, bah, tiens, ça
avant
vous fait 10 plaisir.
Ans, effectivement.
Allez, un bon quiz, ça fait du bien pour commencer. Et si on faisait un petit tour de table de l'actualité, c'est parti.
Pas de panique, nous sommes des professionnels.
C'est tout à fait vrai.
Ah bon?
Vous causez quoi? De tout. Politique, spectacle, sport. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne.
Le tour de table.
De l'actualité.
Et c'est Philippe Bilger, grand fan de Gloria Lasso devant l'éternel, qui veut nous parler des jeux de chaises judiciaires.
Voilà, il y a quelques mois, on avait nommé pour une première fois une avocate tout à fait estimable à la tête de l'école nationale de la magistrature. Et j'ai appris hier que un procureur général de Pau allait être nommé à la tête de l'école de formation des avocats de Paris. Bien sûr. C'est la rhubarbe et le séné, de mon point de vue. Tout ça est.
Passe-moi le
sel,
je te passerai la rhubarbe, c'est voilà. Ça, en version alors, Sarkozy.
Alors, plus sérieusement, au-delà de la superficie de la chose, et qui ne touchera pas, je crois, la profondeur des univers en partie irréductibles, je vois bien ce que Philippe, j'étais dans mes pensées. Je ne vois pas ce qu'un magistrat pourra apporter de plus à l'école du barreau que ce qu'apportait un avocat récemment. En revanche, je vois bien ce qu'une avocate peut détruire dans la philosophie du magistrat. Parce que le magistrat, cette grande particularité par rapport à l'avocat, l'avocat est un auxiliaire de justice, c'est un très beau rôle, mais le magistrat tranche, décrète, juge. C'est tout à fait autre chose.
Bah après, la parole au magistrat, enfin l'ancien magistrat, la parole à l'avocat.
Je suis pas vraiment d'accord, parce que l'avocat auxiliaire de justice peut toujours venir à la demande d'un juge siégé. Comme assesseur.
C'est rare, mon cher Philippe.
Oui, c'est très rare, mais c'est dans les textes, mon cher ami.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous n'avez aucune chance, comme vous ne seriez jamais le plus vieux.
Oui, exactement. Mais bref, il y a quand même une sorte de connivence entre le magistrat et l'avocat. Quand on va plaider, on sait exactement à qui on a affaire, si on connaît le juge et l'avocat. Il a une certaine déférence et une forme de complicité, même si parfois on vient défendre l'indéfendable. Et je crois que les deux professions, il y a un parallélisme dans les deux professions, un cousinage, je dirais même. Et pour preuve, beaucoup d'avocats deviennent par passerelle, notamment les docteurs en droit, les docteurs en droit magistrats. C'était le cas de mon père, qui a été 30 ans avocat, qui est devenu 20 ans magistrat.
Il a fréquenté Philippe Bilger.
Oh, je ne sais pas, c'est fort. Il avait de très mauvaises fréquentations quand il est devenu magistrat.
Mais Philippe,
je n'en douterai pas d'ailleurs.
En dehors de votre père, il y a eu une époque où la magistrature ne récoltait pas forcément les meilleurs avocats, ceux qui imaginaient que magistrats, ils auraient moins de travail. Depuis, ça s'est beaucoup amélioré, objectivement. Mais je mettais bien sûr votre père complètement à part.
Non, mais il avait fait... Mais c'est le cas. c'est le cas aussi en Angleterre. Vous avez des baristeurs qui deviennent magistrats. Donc moi, je pense que c'est bien. Et je crois que ce changement alternatif à une période de sa vie peut être très enrichissant pour une ou l'autre des professions.
Caroline Pilastre, quand vous voyez Philippe Bilger, ancien magistrat, Philippe Deveux, l'avocat, vous ne regrettez pas de ne pas avoir embrassé une carrière juridique ? Là, vous auriez été bien entouré, vous voyez, je suis sympa avec eux.
Exactement. Je suis plus attirée par le journalisme.
Elle préfère
mais c'est sûr
embrasser
que le droit...
autre chose.
Quelle omnie, c'est incroyable.
Et si elle avait envie d'embrasser, c'est son droit.
Je vous embrasse tous, oui. Voilà, comme ça, pas de jaloux, messieurs. Non, mais pour répondre
embrassez-les
à la question...
Embrassez-les tous, comme dirait Brassens.
Vous aussi, vous en faites partie, monsieur Bilger.
Bon, je suis plus contagieux.
Bon, je peux répondre à la question, oui. Comme un peu sérieusement, messieurs. Oui. Bon, non, mais évidemment, ça n'est pas ma partie. Mais extérieurement, je pense également, comme toi, Philippe, que ça peut être une bonne chose en termes de neutralité. Parce que, évidemment, l'avocat a un lien direct, une fois de plus, avec la magistrature. On reste quand même dans la même corporation. Mais peut-être que le fait que ça ne soit pas la même école, la même fonction précisément, ça peut apporter un autre regard, une autre vision. Donc dans ce sens-là, extérieurement, moi je n'y vois pas d'inconvénient.
Mais vous êtes bien sûr sur Radio.
Merci de m'approuver, Caroline.
C'était M. Deveul que
j'approuvais. Pour conclure une petite seconde, mais quand même, Caroline, il y a aussi des magistrats qui deviennent avocats. Avez... Il y a aussi des magistrats qui deviennent avocats.
Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est un peu les chaises musicales, en fin de compte, quelque part.
Ça marche, c'est ce que Philippe Bilger appelait les chaises judiciaires. Voilà. C'est amusant. Voilà. Vous êtes bien sur Sud Radio à 18h30, notre grand débat. Mitterrand a-t-il été un grand président ? Et pour le moment, vous êtes 87% à dire non. Vous voulez nous joindre le 0826 300 300. On se rejoint dans quelques instants pour prendre la direction de Marseille.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Philippe Deveul et Caroline Pilastre. 10 départements français pourraient voir leur couvre-feu avancer à 18h dès dimanche et rejoindre les 15 départements dans lesquels la mesure est déjà en vigueur. Ces départements, c'est le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Côte d'Or, l'Yonne, le Cher, l'Allier, la Haute-Savoie, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Des départements qui passent ou frôlent un taux d'incidence de 200 cas pour 100 000 habitants. Nous sommes en compagnie du docteur Laurent Saccomano, président de l'URPS, les médecins libéraux de PACA. Docteur Saccomano, bonjour et comme c'est la période, meilleurs voeux.
Bonsoir et mes meilleurs voeux aussi à toute votre équipe.
Merci
beaucoup.
Quelle est la situation, vous qui êtes dans les Bouches-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône ?
On voit comme un petit peu de partout en France, un taux d'incidence qui remonte, une vaccination qui se met en place mais difficilement. Et ce que l'on constate peut-être un petit peu plus, c'est un nombre de cas qui augmente mais aussi au sein même des familles. C'est-à-dire que peut-être que dans la première ou la deuxième vague, on se rendait compte qu'il y avait des personnes qui étaient contaminées de façon assez isolée dans les familles. Et là, on constate que lorsqu'une personne est malade, et bien très vite, on apprend que les autres membres de la famille sont contaminés à leur tour.
Alors justement, les Bouches-du-Rhône, c'est quand même la deuxième ou troisième plus grosse agglomération française, c'est Marseille, de grosses concentrations de population, également avec de grosses villes comme Martigues, Aix-en-Provence, Arles, etc. Dans les départements environnants où il y a de moindres concentrations de la population, quelle est la situation ? Je pense aux Alpes de Haute-Provence par exemple.
La situation est quasiment identique. Hein. On voit que le virus, finalement, là où il était assez isolé dans la première vague, finalement, là, on constate cette augmentation un petit peu de façon diffuse. Et je crois que même si les taux ne sont pas tout à fait révélateurs et de ce qui se passe, puisqu'on attend malheureusement avec impatience les taux de la semaine prochaine qui révéleront un petit peu ce qui s'est passé pendant les fêtes de fin d'année, on voit que le virus circule de façon extrêmement massive, extrêmement rapide dans la population et que personne n'est épargné.
Question les vraies voix, Philippe Deveux, une question, docteur Saccomano.
C'est toujours. Est-ce qu'il y a déjà de la mutation dans les Bouches-du-Rhône ?
Ah oui, est-ce que vous avez les vaccins souches sud-africaines ou britanniques ?
Britanniques.
Alors, a priori, c'est en cours d'investigation. On n'a pas forcément encore des cas bien identifiés. Mais on peut le craindre et on ne voit pas pourquoi ce virus muté qu'on a retrouvé en Afrique du Sud, que l'on a retrouvé en Angleterre et qu'on commence à retrouver en France, on ne l'aurait pas dans les Bouches-du-Rhône. On est dans des régions, dans des départements où il y a des brassages assez importants de population, où on a beaucoup de touristes, où on a des voyageurs. Donc forcément, on peut craindre. Ça serait surprenant que dans les prochains jours, nous n'identifions pas des mutations du virus.
Philippe Bilger, question au docteur Sacomano.
Docteur, est-ce que après, de mon point de vue, un début de catastrophique pour les vaccins, est-ce que vous avez senti vous-même une grande amélioration dans votre région ou est-ce que ça continue à être discutable, pour utiliser un euphémisme?
Alors, je crois qu'on peut dire que c'est largement discutable. Il est évident qu'il y a eu un manque d'anticipation, encore une fois. Ce que l'on constate par contre, c'est qu'il y a une grande mobilisation de tous les acteurs, qu'ils soient libéraux, que ce soit l'Agence régionale de santé, que ce soit les établissements hospitaliers publics ou privés. Tout le monde est sur le pont. Tout le monde propose d'organiser des centres de vaccination, des vaccinodromes. Le stade Vélodrome se met à disposition pour pouvoir accueillir les personnels de santé pour vacciner et pour être vaccinés. Mais nous, ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont les vaccins. C'est-à-dire que la logistique aujourd'hui se met en place, mais nous n'avons toujours pas les munitions pour pouvoir fonctionner. Et surtout, et je vais dire plus grave, nous avons des difficultés pour pouvoir anticiper cette organisation, c'est qu'on ne nous dit pas de façon précise. Vous aurez, par exemple, sur Marseille, 30 000 doses qui vont arriver le 12 janvier, puis 20 000 doses qui arriveront le 18, et ainsi de suite, pour qu'on puisse savoir comment préparer les files d'attente de patients, de professionnels de santé, vous voyez, pour organiser les choses. Et ça, malheureusement, on revit un petit peu, et c'est pas sur le plan local que ça se passe, hein, c'est à Paris que ça doit, que les signaux doivent être donnés. Et malheureusement, on avait vécu la même chose avec les produits anesthésiants pendant la première vague, quand on avait bloqué les activités chirurgicales dans les établissements, parce qu'on n'arrivait pas à avoir cette visibilité sur notamment les curares qui pouvaient être utilisés pour les interventions chirurgicales et qui étaient priorisés pour, bien sûr, les réa. Et ça, on est toujours un petit peu dans les mêmes situations d'opacité sur la délivrance des vaccins. On dit que ça arrive, mais pour l'instant, on ne les voit pas forcément arriver de façon massive.
Caroline Pilastre.
Vous êtes organisée, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe actuellement. Moi, je voulais savoir, à votre avis, est-ce que vous pensez qu'avancer un couvre-feu de 20h à 18h est plus efficace qu'un reconfinement? Parce qu'on en parle de plus en plus. On nous dit que ça sera comme pour le second confinement, qu'on nous met à 18h, et je pense que la région parisienne ne va pas tarder à suivre, hein, il ne faut pas se leurrer, pour par la suite nous reconfiner. Donc à votre avis, en tant que médecin, vous pensez que l'efficacité sera plus importante dans lequel des cas?
Alors c'est très difficile à dire, parce que ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'il y a un confinement total, on a une stabilité de l'incidence et de la propagation du virus. Maintenant, de modifier de 20h à 18h l'heure du couvre-feu, je ne suis pas certain que ça impacte véritablement la propagation, parce qu'on voit bien dans l'entourage, les personnes finalement font tout ce qu'elles ont à faire avant 18h, avant l'heure du couvre-feu. Mais ça ne les empêche pas quand même d'aller faire leurs courses, ça ne les empêche pas d'aller rencontrer les personnes d'entrée. Donc, à moins peut-être de se placer sur un côté de communication, et peut-être là j'y vois le seul intérêt, c'est que lorsqu'on modifie l'heure du couvre-feu, on signale qu'il y a un danger. On signale que malgré tout l'épidémie est encore en train de circuler et qu'il faut toujours mettre en place les mesures barrières, essayer d'avoir la distanciation. Donc j'y vois plus, vous voyez, un élément de langage ou de communication pour dire « attention, ça va mal dans le département, faites attention ». Plutôt qu'une réelle efficacité purement scientifique et médicale.
Docteur, une question, on parle du nombre, on l'a répété, c'est le taux d'incidence. Est-ce qu'aujourd'hui, on est vraiment à la limite en termes de lits en réanimation?
Alors, pour l'instant, on n'est pas dans les situations de saturation qu'on a pu connaître, mais ce qui est certain, c'est que le taux d'occupation est toujours très élevé. Et je vous le disais tout à l'heure,
dans tous les départements de PACA?
Oui, globalement, oui. Oui, parce que finalement, même quand un département commence à être vraiment très saturé, c'est le système des vases communicants, on va essayer de transférer les patients pour équilibrer un petit peu les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que ce taux d'occupation reste très élevé, l'incidence, la circulation du virus est toujours très élevée, et on n'arrive pas, et c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant par rapport à ce qu'on a vécu, c'est que lors des phases précédentes où on avait des confinements, on avait une chute de cette occupation. Or, vous l'avez entendu, on parle actuellement d'un plateau, et ce plateau ne décroît pas, ce qui veut dire que non seulement le virus circule, non seulement le taux d'occupation des lits est important, et ça veut dire que si la vaccination n'est pas déployée de façon plus massive, plus rapide, bah finalement, qu'est-ce qui va nous rester ? De nouveau un confinement ?
Vraie question, est-ce qu'on va vers un nouveau confinement et un confinement version automne ou un confinement version printemps ? On le saura, à mon avis, dans quelques jours, on saura à quelle sauce on va être mangé. Vous êtes bien sur Sud Radio, 18h27, les vraies voix. Ah, et a priori, oui, le nouveau variant fait des ravages en Angleterre. Plus de 1300 morts, c'est ça ? C'est assez, malheureusement, terrible. Allez, dans quelques instants, François Mitterrand, notre grand débat, ça fait 25 ans qu'il est mort aujourd'hui. A-t-il été un grand président ? Vous êtes 87% à dire non. Vous voulez réagir ? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300. On remercie le docteur Laurent Saccomano et on se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Oui, on veut que ça change maintenant. Mitterrand président, allons, c'est le moment. Mitterrand président.
C'était la chanson de campagne de François Mitterrand en 1980, il y a pile 40 ans. François Mitterrand est décédé il y a 25 ans aujourd'hui. Il aura été le président ayant siégé le plus longtemps à l'Élysée, puisqu'il y aura passé 5110 jours exactement. Élu sur un programme clairement à gauche, il changera définitivement de cap au bout de 2 ans, en 1983, avec le fameux tournant de la rigueur. Il aura, par ordre chronologique, aboli la peine de mort, été clairement atlantiste dans la crise des missiles pour premier mandat et lors de la guerre du Golfe, second mandat, fait voter la monnaie unique avec Maastricht avant de quitter le pouvoir à l'issue d'une seconde cohabitation. Mitterrand a-t-il été un grand président ? C'est le grand débat des vraies voix et pour le moment, vous êtes 87% à dire non. Avec nous pour en débattre, une voix et même une vraie voix de Sud Radio qui a très bien connu François Mitterrand. Bonsoir André Bercoff.
Bonsoir Philippe.
Alors tiens, 25 ans après vous André, quel regard portez-vous sur François Mitterrand ?
Ah, écoutez, le plus grand, le Robert Houdini de la politique, un Robert Houdini extrêmement cultivé, un extraordinaire jongleur parce qu'il a fait croire aux Français qu'il était de gauche, alors qu'il était d'abord un politique. Et vous savez, juste Philippe, une petite précision, tout le monde date le tournant en 1983. En fait, c'était 1982. C'est quand Jacques Delors a annoncé la pause dans les réformes, c'est là où vraiment ça a commencé. Je me rappelle pourquoi je me rappelle, j'écrivais un livre sauvé sous le nom de Caton, où je racontais comment la gauche allait faire la politique de la droite. C'est un livre sous pseudonyme, et je l'ai écrit en octobre 82. Et c'est vraiment là qu'il y a eu le tournant, c'est-à-dire que l'annonciateur, c'était de dire « Attendez, le France est en train de se casser la gueule ». Et donc ils ont dit, attendez, au même temps, c'est très joli, le socialisme, la nationalisation, tout ça c'est très bien, mais là il faut revenir au bercail. Et le bercail, eh bien, il a été fait là, mais on continue à dire, attention, nous sommes socialistes, c'est salaud de capitaliste. Et en même temps, dans les coulisses, on faisait ce qu'il y avait à faire.
Alors justement, vous avez mis le doigt là où ça fait mal, et je vous posais la question, et ensuite vous allez échanger avec les vraies voix. Est-ce que quelque part, ce que vous avez dit sur François Mitterrand, c'était pas ce qu'avait dit son ennemi juré au Parti Socialiste, qu'il avait floué lors du congrès des Pilons en 71, Guy Mollet, qui avait dit « il n'a jamais été de gauche, il a appris à parler à gauche ».
Oui, ce n'est pas faux. Enfin, Guy Mollet lui-même était pas mal dans le genre. je veux dire, Guy Mollet, c'était très bien. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire que Mitterrand, enfin, on va refaire le passé de Mitterrand, mais vous savez très bien que passer de la Francisque au Point et la Rose, c'était déjà un grand, quand même, un grand moment, quoi. Je veux dire, il faut quand même ne pas oublier que Mitterrand, en 42, a eu la médaille de la Légion d'honneur de Pétain.
43, 16 août 1943.
Voilà, 43, bravo, exactement. Or, 43, c'était déjà Stalingrad, hein, donc je veux dire, on ne peut pas dire que bon. Donc, là aussi, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire que ce qui est formidable chez Mitterrand, c'est qu'il a eu ce destin incroyable, il a épousé toutes les facettes françaises, et pour arriver là, et il a compris que c'était par le socialisme,
enfin parle qu'il allait arriver au pouvoir, il est arrivé au pouvoir, mais il a fait comme De Gaulle qui est arrivé au pouvoir en 58 par l'Algérie française et qui a fait l'indépendance algérienne. Mitterrand est arrivé par les socialistes et a pratiqué un capitalisme, je dirais pas plus dur, mais bien senti.
Avant de donner la parole à Philippe Bilger, on s'écoute un extrait mythique de François Mitterrand.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Alors Philippe Bilger, je ne sais pas qui entre André Bercoff et vous et le président et le Premier ministre, mais c'est à votre tour de parler.
Non, mais bien sûr, j'ai le plus grand respect et pour mon ami André Bercoff qui, sur ce point comme sur d'autres, énonce des vérités que j'ai du mal à contredire. Mais en réalité, je suis mal à l'aise à l'égard de Mitterrand parce que j'ai l'impression moi-même d'être dans l'ambiguïté dont il ne faudrait jamais sortir en politique. Je pense par exemple à deux livres. Vous m'arrêtez, Philippe, si je suis trop long. Hein, vraiment, je pense à deux livres. Le dernier livre de Régis Debray qui, de manière intermittente, dresse de Mitterrand un portrait plutôt flatteur. Et de l'autre côté, je pense à un livre éblouissant de causticité de Michel Onfray qui compare Mitterrand à De Gaulle et rien ne reste de Mitterrand, il le démolit de fond en comble. Et je me trouve un peu au milieu, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aime chez Mitterrand, sa passion européenne, un certain courage intellectuel, la volonté qu'il a eue en dépit des apparences d'apaiser la France, et puis au fond, et ça n'est pas un paradoxe, j'aime énormément le Mitterrand, l'homme de droite qu'il est redevenu à la fin de sa vie. Mais pour le reste, il y a tout de même quelque chose qui me répugne parce que j'attache une certaine importance à la morale publique, c'est le fait qu'il a totalement privatisé l'État et je me reproche d'avoir été trop sévère avec Nicolas Sarkozy et d'avoir sous-estimé la gravité de ses comportements à lui.
André Bercoff.
Écoutez, d'abord, Mitterrand s'est inscrit dans la logique de la Ve République. Il faut se rappeler, Mitterrand est très fort. Mitterrand, d'abord, a une vraie culture. Mitterrand a connu, il faut le savoir, a été laissé trois fois pour mort dans son sang. Les Piastres, ouais. Rappelez-vous le truc de la Piastre, rappelez-vous mai 68, où on criait Mitterrand fout le camp, il avait essayé de se... de profiter de Gaulle à Baden-Lalem pour s'intituler président de la République ou presque avec Mendès France. Enfin, il s'est retrouvé et puis d'autres épisodes.
Et bon, l'Observatoire, André.
Oui.
Mais qu'il a organisé en 59, hein.
L'affaire de l'Observatoire, absolument, elle était pas mal, l'affaire de l'Observatoire aussi.
Alors, je rappelle, c'était un pseudo-attentat organisé.
Pardon, oui. Non, et juste, ce que je voulais dire, simplement, c'est que ce que Mitterrand a fait, rappelez-vous aussi, alors, donc, De Gaulle, rappelez-vous le coup d'État permanent, où il traitait De Gaulle de Duce, de César, de...
Caudillo, Duce, Führer, de mémoire, la phrase exacte.
Exactement, exactement. Oui, il est allé jusqu'à Führer, vous voyez. C'est pour ça que quand on parle des polémiques d'aujourd'hui, ça me fait doucement rigoler, comme s'il n'y avait pas eu à l'époque, c'était quand même pas mal. Mais pour entendre, et quand il est arrivé au pouvoir, il a pris les habits. Il s'est évidemment vêtu de la parure et il annonce ce que Philippe Bilger appelle la privatisation, ben c'est la Ve République. Le président de la Ve République, il est de part, effectivement, et c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est là où le bât blesse, il est le chef incontesté, j'allais presque dire exécutif, législatif, presque judiciaire. Donc, il y a un problème, et Mitterrand, effectivement, a mené en chef d'État et une France qui était celle qu'elle était à l'époque, et puis Mitterrand a été, c'est là où il est très fort, il a cohabité, ça a été le premier à cohabiter. Giscard avait pensé à la cohabitation, ça ne s'est pas fait, heureusement pour lui,
et Mitterrand il a cohabité deux fois. Philippe Deveul.
Bonsoir André Bercoff, meilleur vœu.
Bonsoir.
Meilleur vœu, hein, et je vous ai bien eu. Hein.
Ah oui, ah oui.
Quelle bonne imitation.
Quel souvenir vous gardez d'Hitler, vous, Philippe Deveul?
Je pense que c'est un grand président en trompe-l'œil. C'est-à-dire que il a été le président de l'abolition de la peine de mort, il a été le président de l'Europe, il a été le président qui a duré le plus longtemps dans la Ve République.
Ah non, dans tous les présidents, voilà, depuis la Deuxième République.
De septennat.
Mais je pense qu'en fin de compte, il a joui quand même d'une bonne période. J'imagine Mitterrand en période de Covid. Je crois qu'il aurait mal vécu ce genre de crise, de situation. C'était une époque...
Justement, André Bercoff, vous qui avez bien connu Mitterrand, est-ce que vous imaginez qu'il aurait géré la crise du Covid comme on la gère aujourd'hui ?
Ah ben, il aurait d'abord expliqué que le Covid était un virus de droite. Il fallait absolument que la gauche s'unisse pour le combattre. Et c'est un virus, enfin, quasiment fasciste, évidemment, et il aurait tout de suite trouvé des boucs émissaires. Non, sérieusement, c'est vrai que ce que vous disiez, c'est vrai que c'était une période quand même un peu plus apaisée que la nôtre. Enfin, chaque période était... Mais on n'était plus dans les 30 glorieuses, hein. On était déjà dans les 30 piteuses. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mitterrand, avec son verbe, avec sa manière de gouverner, a été le dernier président, je dirais, qui avait fait, comment dirais-je, qui maintenait une espèce de tradition. Vous savez, ce côté culte des morts, et puis la pyramide du Louvre, et puis les commémorations, et puis la tradition, etc. Tout était là. Et puis il avait son grand champion, Jacques Lang, qui organisait. Il avait son surintendant Fouquet. Mais lui, heureusement, il ne l'a pas dit à mort.
Mais je voudrais donner la parole à Caroline Pilastre, qui ne l'a pas encore eu, Philippe. Caroline Pilastre, quel souvenir vous gardez de Mitterrand? Il est arrivé au pouvoir, vous étiez petite.
Oui, en fait, c'est le président qui m'a le plus marqué. Hein. Alors, beaucoup, évidemment, c'est un grand homme d'État. Il était taillé pour la fonction. C'était un tribun hors pair.
Il avait d'ailleurs dit « je serai le dernier grand président ».
D'extrêmement érudit, ouais. Hein, il aurait dû déjà gagner en 1974 face à Giscard.
Ça s'est joué à 400 000 voix.
Après, n'oublions pas, puisque tu le rappelais, Philippe Deveul, qu'il a supprimé la peine de mort, mais il a également mis la retraite à 60 ans, c'est lui qui l'a passé à 60 ans. On rappelait la pyramide du Louvre, mais également la bibliothèque François Mitterrand. Il a été, évidemment, un européiste convaincu. Souvenez-vous de Maastricht. Il a quand même été un des premiers dans cette alliance européenne. C'est un américanophile aussi. Il était
On l'a vu lors de la crise des euromissiles.
Tout à fait. Mais il avait aussi une part d'ombre, comme les grands hommes.
Clairement.
Et moi, je n'oublie pas son amitié avec Bousquet, bien évidemment. Il a eu cette amitié jusqu'à la fin. Et puis aussi l'affaire Mazarine.
Et fleurir la tombe du maréchal Pétain.
Oui, c'est ce qu'on disait aussi. C'est ce que disait André en...
Non, mais moi, c'est factuel. Je ne prends pas de parti pris là-dessus. Ouais. Mais c'est quand même... C'est un homme des contradictions, qui a une part d'ombre. Il a fait abolir la peine de mort, mais il y a eu des morts mystérieuses dans son entourage. Patrice Pella, De Grossouvre, Bergovois, enfin, vous voyez, c'est
mystérieuse.
Quand même... Pour moi, oui, elles sont mystérieuses, c'est ce suicide à l'Élysée de Grossouvre, Pella qui meurt.
En tout cas,
meurt,
il a marqué son temps historiquement, c'est le côté évident. Et puis c'était le premier président...
Philippe Bilger, court et on reprend tout de suite André Bercoff et on va au 0826-300-300.
C'est à moi,
Philippe. Oui, mais court.
Pardon, court. André, quand je parlais de la privatisation de l'État, je parlais de cette manière absolument royale dont il a mis l'État au service de ses desseins personnels dans une forme de libertinage régalien. Je crois qu'aucun ne s'est aussi peu soucié de la moralité publique.
Tout le libertinage régalien, je ne connaissais pas cette expression.
C'est la liberté d'expression qu'on a. On peut lui reconnaître
sur les radios libres.
On
va en parler. André Bercoff, le libertinage régalien, c'est quoi, d'après vous?
Non, d'abord, je parlerai de libertinage, de la contradiction chez François Mitterrand, parce que vous avez parlé effectivement de l'abolition de la peine de mort. Je rappellerai quand même que le même François Mitterrand, ministre de l'Intérieur en 1954, a ordonné une vingtaine d'exécutions, dont le communiste Fernand Yvetot pendant la guerre d'Algérie. C'est ça, c'est extraordinaire chez Mitterrand, c'est qu'il a embrassé tous les zones d'ombre, vous en parlez, et les zones de lumière. C'est-à-dire qu'à lui seul, il a fait un peu le spectre français dans ce qu'il a de meilleur et dans ce qu'il a peut-être de moins glorieux. Mais il l'a fait de manière tout à fait, je dois dire, il l'a fait avec un certain panache, en tout cas un panache littéraire.
On va au 0800 26 300 300, Muriel de Béziers est avec nous. Bonsoir Muriel.
Eh bien bonsoir les grandes voix, je suis ravie d'être avec vous. Et bien vous avez résumé exactement ce que je pense.
Ah bah les grands esprits se rencontrent.
Ah bah de toute façon si on est chez vous, c'est qu'il y a des grands esprits.
C'est Muriel, pas Mireille.
C'est Muriel. Muriel. Oh, Monsieur Wilser, enfin quand même.
Pardon, mais oui, c'est grave.
Bah oui, là,
Muriel et Mireille.
Oui, alors, c'est pas pareil.
Vous êtes d'accord avec... allez-y, Muriel.
Moi, pour moi, d'abord, il n'était pas sympathique du tout. Il était très froid. Moi, je l'ai bien connu. C'est la première fois de ma vie où je votais à gauche. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais alors, je l'ai regretté dans l'année qui a suivi. C'est quelqu'un qui était quand même très prétentieux par rapport à un Chirac qui vraiment où le peuple allait vers lui, etc. Et comme vous dites, il a un pactage dans le dos. Et moi, ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est toutes ces cachotteries que la presse connaissait de partout, avec Mazarine, etc., l'affaire Rainbow Warrior, oui. Et puis pas mal de grandes choses. Par contre, au niveau de la culture, on doit lui reconnaître, bon, il a fait quand même la pyramide du Louvre, il a fait enfin pas mal de choses dans la culture, il a libéré les radios aussi, hein, ce qui a été important, mais sinon, non, moi pour moi, il a grand président il a eu la chance, il a fait, oui, la cohabitation.
Ça a été le premier à l'accepter. Merci beaucoup.
De toute façon, il n'avait pas le choix.
Merci beaucoup, Muriel. On va faire réagir André Bercoff dans quelques secondes, mais on doit faire une courte pause. On se retrouve dans quelques instants avec les vrais voix.
Le prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses voeux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, est plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Philippe Deveul et Caroline Pilastre. On avait Muriel de Béziers avec nous, André Bercoff, puisqu'on parle de la mort de François Mitterrand. Il est mort il y a 25 ans. A-t-il été un grand président? Vous êtes 87% à dire non. André Bercoff, vous avez entendu Muriel qui dit « C'était quelqu'un de très distant, très hautain. Chirac était beaucoup plus proche. Vous qui avez bien connu Mitterrand dans l'intimité, il était comment? Il était distant? Il était froid? Il était
Écoutez,
chaleureux ?»
Non, moi, j'ai l'occasion de dîner un certain nombre de fois avec lui, un petit comité. C'était quelqu'un qui n'était pas... Enfin, il était distant, mais pas froid. Et puis surtout, c'est un formidable conteur, faut le dire. C'est un formidable conteur. Et puis, il connaissait, je dois dire, la poésie française par cœur. De temps en temps, il sortait comme ça du René Guitadou ou des poètes vraiment qu'on ne connaissait pas. Il avait en tout cas un ton de la conversation et du conte extraordinaire. Mais je vais vous dire par rapport au grand président. Le problème, c'est qu'on est obligé de comparer après ce qui a suivi. Et ce qui a suivi, c'est que nous sommes arrivés aux forces de l'esprit qui ne quitteront pas à hier soir à 3h du matin. Yes, I stand with America and I am going to save America off the truc. Vous imaginez un peu, plus dur sera la chute.
Alors, justement, on va écouter des sons de la carrière de François Mitterrand. Il y en a un qui a 30 ans, pratiquement jour pour jour. Vous allez comprendre.
Le délai accordé par les Nations Unies à la réflexion et autant que possible au dialogue entre ceux qui pouvaient infléchir le destin, est maintenant dépassé. Sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. Tout repose désormais sur les soldats des 29 nations alliées et pour ce qui nous concerne, sur notre cohésion nationale. La patrie fera face aux heures difficiles qui s'annoncent, en préservant son unité.
La déclaration de guerre en Irak, quelque part, la guerre du Golfe, il y a pile 30 ans. Oui. Philippe, vous vouliez réagir?
Oui, je me souviens, je pense que c'était les moments forts, la guerre du Golfe pour Mitterrand à l'international. Il est arrivé au moment aussi l'effondrement du mur de Berlin, et il était un peu
pas à l'aise. Il n'était pas pour la réunification allemande.
Non, il n'était pas pour
la... Il est très ami avec Helmut Kohl aussi.
Voilà. Il avait du retard.
Mais en revanche, il y a une chose que je voulais dire, c'est que notre président actuel, qui se compare, qui va voir, qui va sur la tombe, la Jarnac, etc. Il se compare à Giscard, il se compare à De Gaulle, il se compare. En fin de compte, c'est un président caméléon en ayant oublié Léon. C'est-à-dire que, je veux dire, il essaye à chaque fois de s'identifier par rapport aux autres. Il n'a pas réussi au bout de 4 ans ou 3 ans et demi à imposer une marque.
Caroline Pilastre, oui. Vous voyez une filiation entre Mitterrand et Macron ?
Eh bien justement, je voulais revenir sur cette filiation prétendue, parce que pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'à part être deux hommes de gauche, parce que n'oublions pas quand même que le président Macron était ministre sous Hollande. C'est un gouvernement de gauche, hein, pardonnez-moi. Qu'il y ait une filiation avec Hollande directement, oui, mais pas avec Mitterrand. Hollande a une filiation directe avec Mitterrand. Mais moi, je pense surtout que M. Macron, face aux hommages, aux commémorations qui vont être rendues également au mois de mai concernant M. Mitterrand, c'est tout simplement pour rallier une partie de l'aile gauche qu'il a ou qu'il est en train de perdre vis-à-vis de 2022, tout simplement. Parce que comme c'est le président centriste et en même temps par excellence, il doit rallier cette frange qui ne le comprend plus politiquement actuellement.
Philippe Bilger, rapidement, le mot de la fin, André Bercoff.
Il est intéressant de voir à quel point le hasard de l'actualité permet en effet de voir qu'Emmanuel Macron affiche une double inspiration qui peut apparaître par certains côtés très contradictoire, puisqu'il se dit inspiré par François Mitterrand et en même temps par le général de Gaulle. Entre les deux, il y a un gouffre, et je crois qu'Emmanuel Macron a beaucoup de mal, au fond, à trouver, comme le disait Philippe tout à l'heure, sa propre identité, parce qu'il est trop cynique pour s'enquister dans une conviction de sorte qu'il risquerait de perdre toutes les autres.
Le mot de la fin, mon cher André Bercoff, en 45 secondes.
Eh bien, c'est très bien, c'est que Emmanuel Macron a fait ciel la devise de Jean Cocteau, puisque ces mystères nous dépassent, fait nom de les organiser.
C'est très
bon. Et c'était effectivement la grande tradition de nos présidents de la République.
C'était très beau comme conclusion. Merci beaucoup, André Bercoff. François Mitterrand a-t-il été un grand président ? C'était notre grand débat ce soir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Et vous êtes 87% à dire non. On se retrouve dans quelques instants avec Les Vraies Voix.
Le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien, présent.
Sud Radio, osez investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant logement d'Oser Investir et vous nous emmenez cette semaine à Toulouse, ville de plus de 480 000 habitants dans la région Occitanie.
Oui Thomas, nous recevons Luc Vives, directeur de l'agence Orpi Toulouse Immobilier.
Bonjour Luc Vives.
Alors Luc, comment se porte le marché immobilier à Toulouse ?
Alors le marché de l'immobilier toulousain semble bel et bien avoir traversé la crise sanitaire sans dommage. On a des résultats qui sont quasiment comparables à ce 2019 qui était exceptionnel.
Et qui pousse la porte de votre agence en temps normal justement ?
Aussi bien nos amis, les investisseurs institutionnels qui ont toujours été présents et omniprésents sur ce marché toulousain, mais les primants accédants qui sont très présents sur ce marché pour pouvoir aborder un éventuel reconfinement dans des meilleures conditions.
Quelle est la tendance sur les prix ?
À la hausse, à notre grand désespoir, nous avons plus de demandes que de produits à la vente, donc les prix sont toujours à la hausse. Quelles que soient les stats données par le marché du neuf, qui commence à baisser légèrement sur la seconde couronne toulousaine, le marché de l'immobilier traditionnel est toujours à la hausse sur une ville comme Toulouse et sur une agglo comme Toulouse.
Alors Luc Vives, avez-vous un ultime conseil à donner à nos auditeurs qui voudraient investir dans votre ville ?
De toujours se rapprocher d'un professionnel qui va pouvoir analyser du juste prix du marché. L'opération va être particulièrement intéressante quand on achète au prix du marché.
Merci Luc Vives d'être passé du côté d'Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence Orpi Toulouse Immobilier. Quant à vous Bernard, je vous dis à la semaine prochaine pour mettre une nouvelle ville à l'honneur.
Sud Radio Oser Investir.
Avec le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Merci à vous les vraies voix, merci Caroline Pilastre, merci Philippe Deveul, merci Philippe Bilger, on vous souhaite un bon week-end, mais tout de suite on va avoir Jean-Marie Bordry avec nous, et quel est le menu ce soir mon cher Jean-Marie?
Les vraies voix qui font bouger la France de 19h à 20h, d'abord les voix du Système D, vous le savez toutes les semaines on donne un coup de main, des conseils aux indépendants, aux chefs d'entreprise avec nos experts fiduciales, on va parler, tiens vous le connaissez ce sujet parce que vous avez été entrepreneur, les organismes de gestion agréés qui sont en grand danger à cause d'une réforme qui a été décidée par le gouvernement, on fait le point dans quelques instants. Et puis les actus qui font bouger la France, le Capitole, les États-Unis des deux côtés de l'Atlantique aussi. Est-ce que les Américains vont arriver à se réconcilier? Vous avez peut-être vu ce sondage, 45% des électeurs républicains soutiennent l'invasion par leur père du Capitole, alors même que leur futur président Joe Biden parle de terrorisme intérieur. Ambiance aux États-Unis.
Et bien on reste avec vous mon cher Jean-Marie Bordry, 19h à 20h sur Sud Radio.